Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour partager vos expériences de vie pendant une heure et en direct. Et avec moi, à mes côtés jusqu'à 16h, ma camarade Ombline.
Bonjour.
Comment allez-vous, ma chère?
Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour à tous.
Nous parlons ici de vous, de votre quotidien, car votre vécu nous intéresse. Alors, remettre à plus tard ce que l'on pourrait faire tout de suite, c'est classique et ça s'appelle la procrastination. Une tendance qui touche beaucoup d'entre nous, quel que soit l'âge. Si certains procrastinent, car ils jugent une tâche trop pénible ou sans importance, d'autres retardent toujours plus par peur d'échouer. Tous multiplient les excuses pour ne pas s'y mettre, mais au travail, dans les études ou à la maison, repousser sans cesse jusqu'à agir dans l'urgence n'est pas sans conséquence. Cela peut être source de culpabilité, réduire l'estime de soi et modifier le regard des autres. Alors peut-on guérir un procrastinateur? Existe-t-il des méthodes pour apprendre à passer à l'action? Procrastination, comment y remédier? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires, car nous sommes là, je vous le rappelle, pour vous écouter.
Et plus que jamais aujourd'hui, vous ne remettez pas à demain, vous téléphonez 3921 pour témoigner, le standard d'Europe 1 est ouvert. Vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Clément sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Clément.
Oui, bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai bientôt 37 ans et j'appelle de Toulouse.
D'accord. Alors vous, Clément, vous êtes un procrastinateur de longue date, déclaré, on
ouais,
va dire, puisque à l'école, déjà, vous aviez tendance à remettre vos devoirs à plus tard. Vous gardez un souvenir très clair de tout ça?
Oui, bah, j'ai un souvenir très clair. C'est vrai que les devoirs, j'avais assez tendance à les faire au tout dernier moment, ou en tout cas aller faire au moment où je voyais que ma mère passait une tête entre la porte et puis très très vite ressortir les cahiers et puis finir à la va-vite. Donc ça, je pense que c'est une situation qu'on est beaucoup à avoir
oui,
connue.
Oui.
Et c'est vrai qu'on voit déjà que la place de l'entourage a pour déjà passer cette procrastination, c'est déjà un des éléments qui permet de plus le faire. Et comme vous l'avez dit, procrastinateur déclaré, il faut aussi quand même en avoir conscience de ça. Alors des fois, on en a conscience, mais sans vouloir se l'avouer. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai subi, en tout cas, pendant une bonne partie de ma vie, jusqu'à finalement ces dernières années, où je me suis lancé dans une activité en parallèle de mon métier, dans une activité sur de l'auto-entrepreneuriat.
Oui.
Et là, pour le coup, c'est extrêmement gênant parce qu'il y a une activité qui stagne, en fait, vu qu'on remet tout à plus tard.
Oui, parce que cette procrastination, elle vous a suivi dans votre âge d'adulte. Au travail, vous avez continué à repousser des tâches. Et en fait, je me posais cette question, qu'est-ce qui vous pousse à retarder toujours? Est-ce que c'est pour faire autre chose ou vraiment c'est toujours aller plus loin et retarder toujours?
Alors en fait, c'est pas tant l'envie de repousser. Et là, c'est plus l'envie de faire autre chose.
Oui.
En fait, moi là, disons que dans mon parcours, mental, puisque c'est un parcours à faire, chacun de son côté, à initier. Donc c'est déjà pour ça que c'est important de constater et de plus subir. Moi, en fait, j'ai eu ce qui était l'élément déclencheur de me poser ces questions autour de tout ça, c'était de dire, pourquoi est-ce que j'arrive pas à avancer alors qu'il y a des projets qui me tiennent à cœur?
Oui.
Et du coup, donc là, j'ai appelé un ami qui est psychologue et hypnothérapeute qui m'a aidé justement à travailler autour de ça. Il m'a posé des questions toutes simples pour savoir, est-ce que je repousse déjà tout? Est-ce que la procrastination, ça s'applique à tous les sujets de ma vie ou pas? Et donc là, j'ai clairement identifié que non, je ne repousse pas tout dans ma vie.
Vous dites que vous avez besoin d'être passionné pour que les choses que vous faites, c'est pas par passion que vous les faites. Autrement, vous les remettez à plus tard.
Les éléments principaux. Voilà, il y a le côté passion qui fait que pour avancer, j'ai besoin d'être passionné. Et il y a le côté urgence. Voilà, c'est les deux facteurs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne me passionnent pas, mais dont l'urgence est extrême. Donc de toute façon, on les fait, que ce soit au travail ou même à la maison.
Mm-hmm.
Et la passion a une place très importante. Et là, il y a une question qu'il faut que chacun se pose, c'est est-ce que dans ma vie, est-ce que quand je fais les choses, est-ce que j'ai besoin d'être passionné pour les faire ou pas ? Il n'y a pas de bonne réponse. Moi, oui. Mm-hmm. Et du coup, une fois qu'on a compris, une fois que j'ai compris que je fais les choses par urgence et par passion, il se dégage certains axes de travail. Moi, par exemple, j'ai du coup identifié que il me fallait que je travaille en équipe. Parce que là, du coup, l'équipe entretient le côté urgent, parce qu'on ne travaille pas que pour soi-même. Et finalement, le côté passion, ça aide juste à prioriser. Donc avant, je priorisais en me disant qu'est-ce que je dois faire. Et finalement, autour de tout ça, j'essaie de voir comment mettre mes éléments les éléments qui me passionnent à moi. Oui. Et du coup, aujourd'hui, j'essaie de faire l'inverse. C'est-à-dire que je planifie. Donc là, je ne parle pas de priorisation. Là, je parle de planifier les moments de passion. Par exemple, aller faire du sport ou aller avec les amis ou jouer aux jeux vidéo ou je ne sais pas quoi. Et autour de ces éléments de passion planifiés, il y a les éléments non planifiés, mais qui vont correspondre à des éléments à faire et qui vont venir s'articuler. Et finalement, ça aide aussi à moins culpabiliser. Mmh. Vu que finalement, on sait que de 20h à 22h, on va faire telle activité qui nous plaît, forcément, ce qui va se passer avant ou après, c'est des choses qui vont être peut-être moins passionnantes ou qui auraient été procrastinées peut-être auparavant.
Alors Clément, vous restez en ligne avec nous. On va justement voir si cela vous a porté préjudice par rapport à vos collaborateurs. Comme vous le dites, vous préférez faire des choses en groupe. Alors que vous avez entamé, en parallèle avec votre activité de salarié, vous avez entamé une autre activité. On va continuer à en parler dans quelques instants et voir si cette procrastination, vous l'avez un peu soignée.
Europe 1. On se demande cet après-midi comment lutter contre la procrastination. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard. C'est le cas d'un de vos proches. Vous nous racontez votre quotidien au 39-21. Vous réagissez sur Twitter, hashtag Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bref, lui, c'est demain. Tous les trucs que j'ai à faire, je les remets à demain. Depuis 2 ans, je dois résilier l'abonnement internet de mon ancien appartement, je le remets à demain. Pareil pour le Tupperware rempli de moisies sur ma table de nuit. Ça fait 2 mois que je le remets à demain. Je suis comme ça, je remets tout à demain. J'ai 284 emails non lus, un jour j'ai décidé de les trier, j'ai répondu à 4 emails et j'en ai mis 280 dans un dossier à répondre.
Ces 280 mails à répondre, il faut s'y mettre. Oui, il va falloir nettoyer
ces
Tupperware sur la table de nuit, oui, il faut un petit peu de temps. Kian Kojandi dans la mini-série Bref sur Canal+, qu'il y a des trucs à faire, mais demain, vous procrastinez, on vous attend au 39-21, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours en ligne avec Clément qui nous expliquait que sa procrastination, qui le suivait depuis l'enfance, avait toujours fait partie de sa vie d'adulte. Clément, en plus de votre activité de salarié, vous avez décidé de devenir indépendant pour faire du conseil en gestion de patrimoine. Vous disiez que ça allait peut-être régler cette tendance à procrastiner. Mais rapidement, vous avez constaté que le travail en autonomie, ça n'était pas non plus votre fort. Expliquez-moi ça.
Oui, en fait, il faut aussi à un moment donné être honnête envers soi-même. Et ça, je pense que c'est une des difficultés. Je pense qu'on est beaucoup à rencontrer sur beaucoup de sujets. Là sur cette activité en parallèle, moi je me suis lancé donc sur un sujet qui est passionnant. Enfin, moi, le macro-objectif lié à cette activité, moi, me passionne, c'est-à-dire aider mes proches dans un premier temps, ainsi que toutes les personnes autour à gérer au mieux leur patrimoine et à en tirer le plus parti. Ça, c'est un macro-objectif qui m'intéresse et dont je parle avec passion à qui veut m'entendre. Ça, c'est une chose. Mais la réalité du quotidien, ça rattrape. C'est des certifications, des habilitations à passer, c'est toute une démarche commerciale à mettre en place avec des appels, des relances téléphoniques, des sur-relances, des se rappeler aux souvenirs des gens. Enfin, il y a vraiment toute une démarche qui est très autonome à faire.
C'est-à-dire que lorsqu'on a un rêve comme vous avez essayé de le réaliser, on fantasme un peu et dans cette activité, comme vous le dites, s'ajoute tout un tas de tâches où vous avez finalement visiblement été rattrapé par cette procrastination.
Exactement. Donc ça, en soi, en fait, on est tous confrontés, je pense, à une partie de notre métier qu'on aime moins et qu'on a moins envie de faire. Seulement là, pour le coup, c'était finalement une partie essentielle de ce métier-là, que moi, je n'aimais pas, et que du coup, j'avais une forte tendance à procrastiner. En tout cas, à ce moment-là de ma vie. C'est-à-dire que moi, je fais ce métier en complément de mon métier. Donc, je n'attends pas après ce métier pour vivre. Donc, vous voyez déjà le facteur urgence dont je vous parlais tout à l'heure, je le vis moins. Peut-être que si j'avais été au chômage, la situation aurait été différente. Mm-hmm. Donc, ça, c'est aussi une question. Sur le fond du métier, est-ce que moi, je me vois d'avoir cette démarche commerciale de relancer, sur-relancer, me rappeler, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, j'en suis arrivé donc à un point où pendant 2 ans, j'ai essayé de faire ça. Ça n'a pas forcément décollé. Et surtout, comme vous l'avez bien dit en introduction, je nourrissais une espèce de sentiment d'autoculpabilité autour du fait que ça n'avance pas, que mes proches me voient dans cette activité, mais que pour autant, ça n'avance pas, que ça ne rapporte rien. Enfin, vous voyez, il y a aussi le côté image renvoyée aux proches qui ne va pas.
Ouais.
Et donc là, depuis peu, j'ai justement pris cette décision de me dire, je pense que je n'ai pas été honnête envers moi-même de me lancer dans cette activité pour cet objectif-là, parce que l'objectif était quand même que j'en vive de cette activité-là.
Ouais, ouais.
Et du coup, là, j'ai juste remanié l'objectif en me disant, ce sera sûrement pas mon futur métier. Par contre, que je fasse ça pour mes très très proches, ou pour les gens à qui j'en parle, qui viennent me solliciter pour ça, et si ça me rapporte rien, ça me rapporte rien, je parle d'argent,
mais
que ça me rapporte juste la satisfaction d'avoir pu aider. En même temps, je m'appuie sur la personne qui me forme sur le sujet quand les sujets sont trop techniques ou qui sollicitent une habilitation particulière.
Mmh.
Et voilà, donc voir de manière plus humble et plus honnête envers soi-même l'objectif lié à cette activité, et finalement, j'arrive mieux à vivre autour d'une situation que je vivais un peu comme un échec jusqu'à présent.
Et j'ai envie de vous dire que quand vous le vivez comme ça, on rejoint l'idée que vous soulignez de la passion, hein, d'accomplir des choses par passion, et que finalement, lorsque vous accomplissez des actes comme la gestion de patrimoine pour des proches, mais sans avoir obligatoirement, comme vous dites, objectif de gagner de l'argent, j'entends que vous êtes satisfait de le faire, et que quelque part, j'entends aussi que vous soignez cette tendance à procrastiner. En tout cas, mille merci pour votre franchise, parce que c'est quand même très, très courageux de témoigner de ce côté que l'on peut avoir à remettre les choses à plus tard. Et pour cela, merci beaucoup Clément pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans un instant, nous allons accueillir Diane Ballona-Roland. Elle a écrit l'ouvrage « J'arrête de procrastiner, 21 jours pour arrêter de tout remettre au lendemain », disponible aux éditions Erol.
Europe 1. Comme Clément, vous avez trouvé des astuces pour arrêter de remettre tout au lendemain. Vous ne procrastinez plus, ou vous avez essayé. En tout cas, vous témoignez au 39 21 50 centimes la minute. Vous n'hésitez pas à réagir, bien sûr, sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Ne pas faire les choses tout de suite, qu'elles soient pénibles ou pas. Comment ne pas céder à la procrastination? Vous discutez avec Olivier Delacroix sur Europe 1 au 39-21.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Diane Ballona-Roland, coach certifiée, fondatrice du cabinet Temps et Équilibre et auteure de l'ouvrage « J'arrête de procrastiner, 21 jours pour arrêter de tout remettre au lendemain », disponible aux éditions Erol. Bonjour madame.
Bonjour.
Bonjour. Vous dites qu'il existe plusieurs profils de procrastinateurs. Pouvez-vous nous expliquer quels sont ces profils ?
Alors, il y a plein de profils différents en réalité, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, et je crois que Clément l'a dit aussi, on est tous un peu procrastinateurs. C'est-à-dire que je le suis aussi dans certains domaines. Vous l'êtes probablement, j'imagine, dans certains domaines aussi. Pas du tout. Tant mieux.
Okay. Non.
Voilà. Donc, on a tous en nous un petit, plus grand procrastinateur.
Oui.
Alors, globalement, on évoque souvent trois profils qui avaient été conceptualisés par deux grands spécialistes mondiaux du sujet, que sont le docteur Ferrari et le docteur Fischel. Et lui, eux, en fait, décrivaient trois grands types de procrastinateurs, les éveillés d'abord, ou chercheurs de sensations fortes, qui, eux, vont attendre la dernière minute pour travailler sous pression. Hein, Clément l'évoquait aussi tout à l'heure, j'ai besoin de travailler dans l'urgence, sous pression.
Mm-hmm.
Vous avez aussi les évitants, qui vont chercher à éviter, alors évidemment souvent inconsciemment, la peur de l'échec, voire même dans certains cas du succès,
ouais,
et qui vont rester en tous les cas préoccupés souvent par l'opinion des autres sur eux-mêmes. Et puis vous avez une autre catégorie aussi, c'est un petit peu réducteur, que sont les indécis, qui eux vont avoir des difficultés à prendre une décision Et là, on parle effectivement plutôt de procrastination décisionnelle.
Mmh. Mais est-ce que dans la procrastination, on n'est pas dans tout simplement une mauvaise gestion des priorités? Quel est votre avis là-dessus?
Alors, pas que. Alors, dans certains cas, oui, mais c'est assez réducteur. Ce qu'il faut savoir, hein, et d'ailleurs Clément aussi l'a évoqué, la procrastination, c'est vraiment un phénomène qui est complexe, qui est difficile d'ailleurs à accompagner en gestion du temps, en fait, hein, en réalité, qui est multiforme, qui est multifactoriel.
Oui.
C'est un mécanisme conscient. Il l'a dit lui aussi, en général, qu'on procrastine, on sait qu'on procrastine. C'est ce qui génère justement, hein, en général, un sentiment de culpabilité qui est important. Et quand on parle souvent de procrastination, d'ailleurs, on parle justement du retard coupable. Mais ça va s'appuyer sur tout un tas de ressorts inconscients. Et c'est donc, c'est vraiment ce qui est typique, hein, chez la procrastination, et Clément l'a évoqué aussi. D'un côté, vous savez que vous devez passer à l'action, et de l'autre, même si vous savez que c'est bon pour vous, vous n'allez quand même pas passer à l'action. Donc c'est alors, un peu la difficulté.
Oui, hein? Alors justement, comment sortir de ce cercle vicieux dans lequel la procrastination peut vous enfermer, comme vous venez de le présenter?
Alors, ben justement, je crois que c'est... Alors, il y a plein de stratégies différentes, c'est-à-dire que en tous les cas, moi, c'est la façon dont je procède, c'est-à-dire que c'est d'aller effectivement soi, individuellement aussi, justement, aller identifier un petit peu son profil de procrastinateur, d'aller creuser un petit peu. Moi, ce que je propose en général, c'est ce que j'appelle, d'ailleurs je propose dans le livre, c'est un état des lieux en 7 étapes qui vont permettre justement d'aller creuser finalement les raisons pour lesquelles on procrastine, sur quoi on va procrastiner. Et c'est important parce que il n'y a pas une seule bonne stratégie pour sortir un petit peu de ce comportement. Donc, il faut aller essayer d'identifier là où les stratégies qui vont correspondre en fait à votre profil. Donc, très clairement et de manière très concrète, les 7 étapes, je vais passer vite dessus, hein, parce qu'on ne pourra pas les détailler.
Ouais.
Mais la première étape, c'est j'identifie ce que j'ai tendance à reporter.
Ouais.
Parce qu'effectivement, on peut avoir tendance à procrastiner plutôt dans sa vie personnelle et moins dans sa vie professionnelle ou vice-versa. Ça peut être dans les études, etc. Deuxième étape, ça va être j'identifie ce qui me rebute précisément dans mes tâches à accomplir. Et là, c'est intéressant parce que souvent, quand on procrastine une tâche, parfois, on peut être juste bloqué par un petit morceau d'une tâche. C'est-à-dire qu'il va y avoir un morceau de cette tâche qui va nous rebuter plus particulièrement et qui, du coup, va bloquer tout le processus. Donc, c'est intéressant, là encore, d'aller décortiquer ce qui va précisément, finalement, nous coincer, hein, nous rebuter, nous bloquer dans l'accomplissement de cette tâche. Troisième étape, c'est j'identifie tout ce qui m'empêche de m'y mettre, parce qu'on a bien vu, hein, qu'il y a souvent plein de freins, de blocages. Donc, ce qui va être important, là, c'est de mettre de la conscience dessus. Et je trouve que c'est ce qu'a fait Clément, et l'admirablement fait, parce que c'est effectivement pas facile de mettre de la conscience sur nos comportements, sur les raisons pour lesquelles on fait, voilà, ou on ne fait pas d'ailleurs ce que l'on doit faire. Donc, qu'est-ce qui vous pousse à remettre à plus tard? Qu'est-ce que vous ressentez justement à ce moment-là? Comment va s'exprimer le sentiment de culpabilité, par exemple?
En tout cas, prendre conscience de pourquoi on fait les choses, en tout cas certaines choses tout de suite, et pourquoi on n'en fait pas d'autres plus tard, c'est là que se joue, à mon avis, la procrastination. Aidez-moi, Ambline.
La procrastination. On n'est pas aidé aujourd'hui.
Bon,
c'est dur.
Mais en tout cas, Diane Balona, Roland, il nous reste 4 étapes et on va en parler juste après. On accueillera d'ailleurs un autre Clément. Il est déclaré lui aussi procrastinateur dans ses études. Il a aujourd'hui des astuces pour arrêter de remettre au lendemain, ce qui nous permettra de parler des 4 dernières étapes que vous évoquez. À tout de suite.
Et Léa, 38 ans, témoigne au 39-21. Mon compagnon procrastine en permanence. C'est vrai que c'est pas simple. Ça me rend folle. Il reporte systématiquement certaines tâches à demain. Il me dit que nous n'avons pas le même timing. Alors je pense qu'il y a une vraie différence entre les femmes et les hommes. Les femmes ont l'habitude d'avoir une charge mentale, ce qui les oblige à faire les choses en temps et en heure.
Europe 1.
Ne pas faire les choses tout de suite, qu'elles soient pénibles ou pas, vous procrastinez, vous remettez à plus tard, vous n'arrivez pas non plus à vous décider. 39-21 pour nous appeler. Vous composez le 3921 pour venir discuter avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Pourquoi avez-vous tendance à tout remettre à plus tard? Par paresse? Par crainte? Vous procrastinez? À tout de suite. Et on écoute sans attendre. Oui, c'est maintenant. Calvin Harris et Rag & Bone Man avec Giant sur Europe 1. Le DJ écossais Calvin Harris qui s'offre les services du chanteur Rag & Bone Man Giant sur Europe 1. Vous mettez du temps à passer à l'action. Vous remettez à demain. Vous procrastinez, quitte à être finalement en retard. Vous retrouvez Olivier Delacroix et vous témoignez au 3921.
Et nous sommes toujours en ligne avec Diane Ballona-Roland. Je rappelle que, madame, que vous êtes coach, fondatrice du cabinet Temps et Équilibre et auteur de l'ouvrage « J'arrête de procrastiner 21 jours pour arrêter de tout remettre au lendemain » aux éditions Esser. Donc, vous en étiez à la troisième étape. Alors, en quelques mots, parce que, bien évidemment, il y a d'autres témoins qui veulent nous apporter leur histoire de procrastination. Quelles sont ces quatre dernières étapes? Parce qu'on en était à la conscience.
Effectivement, c'était... Alors, l'étape 4, c'est je fais tout simplement le point sur mes fausses bonnes excuses, puisqu'on en utilise toutes. On a tous un peu nos jokers, hein, comme ça, sous le coude. La grippe, la gastro, etc. Donc, c'est intéressant de mettre de la conscience dessus. L'étape 5, c'est je prends conscience aussi du prix de ma procrastination. Quel est le coût? Qu'est-ce que ça me coûte? Et ça, c'est toujours intéressant à creuser aussi, parce que ça peut amener, justement, ça peut être le déclic qui vous permet d'avoir envie de changer véritablement. Oui. L'étape 6, c'est j'explore les bénéfices cachés de mon inaction aussi, parce qu'il peut y avoir aussi des bénéfices cachés ou secondaires. Et enfin, l'étape 7, j'ose me confronter à mes peurs. Et ça, c'est important parce qu'il y a effectivement souvent beaucoup de peurs derrière nos comportements de procrastination.
Et cette étape 7 est en forme de bilan pour vous, puisqu'on se confronte à ses propres peurs, donc on est dans une sorte de bilan.
C'est ça, c'est d'aller là encore. Alors forcément, c'est toujours mieux d'être accompagné, mais en même temps, on peut le faire seul aussi. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut se confronter et aller regarder en se posant des questions toutes simples, hein, ou l'impression de ressentir pour ces 7 ou ces tâches que vous reportez une ou plusieurs peurs. Est-ce que cette peur est fondée? Sur quoi s'appuie-t-elle précisément? Est-ce que vous avez des preuves ou des faits concrets et avérés qui pourraient justement donner du crédit à cette peur, ou est-ce qu'elle relève davantage d'une croyance limitante? Voilà. Donc, et comment est-ce qu'on pourrait finalement prendre le contre-pied de cette peur? Voilà. Donc, c'est un travail effectivement d'introspection, hein. On ne peut pas y couper, mais ce travail-là, comme l'a fait Clément, peut nous amener effectivement à trouver et identifier les bonnes stratégies pour passer de l'inaction à l'action.
Alors justement, nous allons accueillir un autre Clément qui est plus jeune, lui, que le premier. Bonjour Clément.
Bonjour.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Clément?
Alors j'ai 22 ans et je vous appelle de Bordeaux.
D'accord. Alors vous êtes étudiant. Et vous dites que depuis le lycée, vous avez tendance à faire les choses au dernier moment, donc vous procrastinez, que c'est votre fonctionnement de travailler dans l'urgence. Vous avez commencé des études de droit et les nombreuses dissertations à rendre étaient pour vous un vrai calvaire. Vous vous sentiez freiné dans votre élan, pour quelles raisons?
Je dirais que, enfin, il y a quelque chose avec moi que j'ai entendu avec justement mon homonyme Clément, qui est la passion et la gratification instantanée en fait.
Oui.
C'est-à-dire que ces dissertations, fondamentalement, j'aimais et j'aime toujours le droit, mais ces dissertations avaient quelque chose qui apportait pas, on va dire, entre guillemets, de fun, de quelque chose d'agréable tout de suite. Donc j'avais tendance à les délayer, voilà, et à me retrouver avec des dissertations extrêmement longues à des délais très très courts. Et c'est ce qui faisait que, je pense que c'est ce qui résume, c'est la gratification instantanée. Il y avait cette recherche de quelque chose de facile, de court, et c'était pas le cas. Et en arrivant en droit, je m'en suis rendu compte, puisque avant, dans mon parcours d'études, j'avais toujours des facilités, comme on dit, donc j'arrivais à apprendre assez vite, et à me rendre compte que c'était pas le cas, ça me donnait cette impression d'avoir cette montagne et donc de la remettre toujours au lendemain jusqu'à ce qu'on puisse plus.
Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce que vous faites des travaux de groupe et est-ce que vous avez tendance aussi à procrastiner lorsque vous êtes en groupe ou moins?
Beaucoup moins, beaucoup moins. Parce que le travail de groupe, je me sens, on va dire, responsable vis-à-vis des personnes qui sont avec moi. Et donc, il me semble avoir entendu justement l'autre Clément en parler. Quand il y a des gens, je ne peux pas me rendre responsable de louper en fait le travail qu'on doit rendre ensemble.
Oui.
Donc effectivement, là, il va y avoir cette urgence, ce délai, cette culpabilité qui va prendre le dessus et me dire, là, il faut que tu te bouges. Voilà. En tout cas, il y a vraiment la responsabilité pour le groupe.
En tout cas, on peut là, peut-être voir un début d'explication, c'est que vous êtes sûrement fait, vous qui n'avez, vous êtes tout jeune, hein, vous n'avez que 22 ans, hein, vous m'avez dit.
C'est ça.
Donc, on peut y voir, en tout cas, dans la procrastination que vous constatez aujourd'hui chez vous, voilà, un bilan, c'était cette fameuse septième étape dont parlait Diane Balonin-Roland tout à l'heure, et peut-être dès maintenant, vous pouvez, Clément, vous dire que vous serez plus destiné dans votre avenir professionnel à travailler en groupe plutôt que de vous lancer dans une aventure professionnelle en solo. Merci en tout cas d'avoir livré votre témoignage cet après-midi sur Europe 1. Dans un instant, nous accueillerons Morgane. Sa procrastination est devenue un temps de créativité et on va voir comment.
Europe 1.
Quand vous trouvez toutes les excuses pour ne pas accomplir une tâche, vous procrastinez, vous nous racontez au 39-21, vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Le lendemain qui dure mes voeux sans condition, j'avoue que me rassure la procrastination. J'avoue que me rassure la procrastination.
La procrastination qui rassure la chanteuse Juliette. Petite tâche aux véritables corvées dans votre vie personnelle ou professionnelle, vous préférez vous y atteler? Demain, pour échanger avec Olivier Delacroix, vous composez maintenant le 39-21.
Et nous sommes maintenant avec Morgane sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Morgane.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
J'ai 46 ans et je suis à Villeurbanne.
D'accord, Villeurbanne, c'est près de Lyon. Près de Lyon, c'est ça.
Juste à côté de Lyon, c'est collé à Lyon.
Collé à Lyon. Alors vous Morgane, ouais. Vous avez été salariée pendant 15 ans et vous dites que c'est une période pendant laquelle vous vous êtes beaucoup ennuyée, vous procrastiniez vraiment à tout va à ce moment-là.
Oui, beaucoup.
Et pourquoi
oui.
ça?
Eh bien justement parce que je m'ennuyais et donc le fait de procrastiner, c'est-à-dire de penser à faire les choses mais ne pas les faire, eh bien oui. ça m'occupait beaucoup. Et surtout ce que je faisais ne m'intéressait pas, donc j'avais l'impression que plus j'y pensais, plus j'attendais, que peut-être il y avait un miracle qui allait me tomber dessus et que tout allait bien se passer, mais non en fait.
Mais non, et à cet âge-là à 15 ans, surtout voilà, les filles, vous êtes beaucoup plus en avance que nous, les garçons, à 15 ans, en pleine construction, hein, vous culpabilisiez, vous vous sentiez coupable de remettre sans cesse le travail à plus tard, c'était sans fin?
Oui, parce que ben, en fait, la société nous dit qu'il faut faire tout de suite, et donc quand on n'y arrive pas pour une raison ou pour une autre, ben, en fait, on a l'impression qu'on ne fait pas bien. Donc oui, c'était une grosse culpabilité, oui.
Alors, vous dites que vous aviez une réputation de glandeuse ensuite au travail oui. et qu'on vous le faisait remarquer. Dites-moi comment, de manière galante, vous le faisiez remarquer ou alors c'était, vous le preniez quand même voilà, en direct?
En fait, c'était subtil, c'est-à-dire qu'on me le disait pas directement, mais c'était dans l'évolution de ma carrière, on va dire, qu'on me faisait comprendre que je ne montrais pas assez que je travaillais, que je travaillais pas assez, alors qu'en fait, c'était surtout que je n'avais pas assez à me mettre sous la dent et voilà, donc c'était plus, voilà, plus subtil.
Écoutez, moi je vais vous dire un truc. En vous écoutant, Morgane, j'ai l'impression que vous êtes un peu embêté pendant 15 ans. Et puis que tout à coup, on parlait de tout à l'heure de passion, hein, de motivation pour éviter la procrastination. Votre procrastination à vous, en fait, est devenue un temps de maturation de vos idées. En quoi c'est devenu un temps de créativité aujourd'hui pour vous? Expliquez-moi.
Alors en fait, donc j'ai complètement changé de vie, je suis devenue indépendante et j'ai créé mon propre métier,
oui.
qui est totalement créatif.
Donc passion.
Et voilà, complètement passion. Et à ce moment-là, les vieilles habitudes de procrastination étaient toujours là au début.
Oui.
Et je me suis rendu compte, par contre, qu'elles n'avaient pas du tout le même effet.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que ce temps où je ne produisais pas, m'a amené plein d'idées, plein d'envies, plein de choses que je voyais autour de moi. Et le jour où j'étais prête à créer, ben en fait, j'avais beaucoup de matériaux et j'avais cette espèce d'énergie qui faisait que je créais au bon moment exactement ce que je voulais créer.
Et donc fini.
Ça a complètement changé ma vision. Fini, ouais.
Complètement fini. Fini de remettre à plus tard le tout.
Oui, la majorité de ce que je... Oui, ça m'arrive encore, mais c'est très rare. Et surtout, je suis très en confiance par rapport à... Si je sens que je procrastine, je me dis, OK, c'est qu'il y a une raison. Donc, du coup, la culpabilité, par exemple, elle a complètement disparu.
Mmh. Alors, Diane Ballona-Roland, on écoute Morgane. Et justement, oui. on voit que la procrastination peut être aussi positive.
Exactement. Donc ça, c'est important parce qu'on n'en parle pas si souvent.
Hein. Il faut.
On parle effectivement d'ailleurs de procrastination positive. Et moi, dans certains cas, je le conseille. Je le pratique aussi parce que j'ai aussi un métier qui nécessite d'être créatif aussi dans certains domaines. Et il y a effectivement, ça s'appuie sur un rejet des contraintes hein, aussi essentiellement. Trop plein d'obligations et on a besoin... Procrastiner, à un moment donné, revient à opposer une forme de résistance, finalement, consciente ou inconsciente, mais en tous les cas salutaire, face à toutes les injonctions qu'on a à droite et à gauche. Et on parlait justement de créativité, de ces temps de maturation. La créativité, très clairement, elle a besoin de temps. C'est-à-dire qu'on ne crée pas sous la pression du temps. Les meilleures idées sont celles que l'on a, enfin en tous les cas, moi c'est mon cas, mes meilleures idées, je les ai quand je suis au café le matin, que mon esprit divague, que je m'absorbe en fait dans l'atmosphère justement du café, c'est ça qui est intéressant.
Mais vous savez, je repense à ce que vous me disiez au début, au tout début de votre intervention, vous disiez, nous sommes tous un peu, nous souffrons tous un peu, je ne sais pas si on en souffre ou si plutôt c'est au contraire quelque chose qui est ultra positif, mais nous souffrons tous de procrastination et c'est peut-être tant mieux d'ailleurs. On va continuer à en parler hein, dans le reste de cette émission, Diane Ballona-Roland. On va accueillir justement Françoise qui était très active quand elle travaillait et puis paf, la procrastination, elle est tombée juste au moment de la retraite.
Europe 1. Vous savez qu'il faut vous y mettre pour éviter les ennuis et pourtant vous procrastinez, c'est votre défaut. Vous essayez de le combattre, c'est le défaut d'un de vos proches. Vous discutez avec Olivier Delacroix, tout de suite au 3921. Vous allez retrouver Olivier Delacroix et on parle de la procrastination plutôt que de vous lancer dans une tâche importante. Même si vous êtes en retard, vous en préférez une autre. Venez nous dire pourquoi. On continue de vous écouter au 39-21. C'est Christine and the Queens sur Europe 1 avec 5 dolls. Nouvel extrait de son album Christine and the Queens avec 5 dolls. Vous procrastinez, comment y remédier? Vous discutez avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous allons encore parler de cette procrastination. Mais depuis le début de cette émission, nous avons beaucoup parlé du milieu professionnel. Peu, finalement, de la maison, de tout ce qui concerne les tâches domestiques. Et pour en parler, justement, nous accueillons Françoise. Bonjour Françoise, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier, je suis très contente de vous avoir.
Bah écoutez, moi aussi.
J'écoute tous les jours et je prends plaisir à vous écouter.
Bah merci beaucoup Françoise, je suis très
touchée. Non, c'est très sincère.
Ah, mais je n'en doute pas une seule seconde. Vous nous appelez d'où Françoise et quel âge avez-vous?
Non, moi j'appelle du Val-de-Marne.
Oui.
Hein
Et vous avez quel âge?
J'ai 66 ans bientôt.
66 ans. Alors, en fait, Françoise, vous dites que tout le temps que vous travaillez, vous étiez vraiment très organisée, que rien ne dépassait, et puis que la procrastination est arrivée à l'âge de la retraite. Est-ce à dire que, à partir du moment où vous êtes retrouvée à la maison, avec des tâches plutôt... ménagère, domestique, familiale même. Est-ce que c'est là que la procrastination est apparue?
Non, pas du tout.
D'accord.
Parce que je vis seule avec mon chat. Je vis pas seule parce que je vis avec mon chat. Mmh. Et disons qu'au départ, quand j'étais en retraite, j'ai continué à faire comme je faisais avant.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire de tout faire tout de suite pour pas avoir de soucis, pas avoir de problèmes.
Et alors pourquoi cette procrastination est arrivée?
C'est arrivé au fur et à mesure.
Oui.
Et là, je vois que j'ai quand je reçois du courrier, ça va peut-être vous paraître bizarre, j'entasse le tout.
Et pourquoi ça?
Je sais pas, parce que.
Il vous inquiète?
J'ai l'impression que peut-être, vu mon âge, ça me paraît moins important.
Moins important.
Mm-hmm. Peut-être, hein, j'ai dit, j'en suis pas sûre.
Est-ce que c'est une manière de se débarrasser d'une charge mentale? C'est-à-dire, voilà, vous avez 66 ans, ce courrier qui arrive, ça peut attendre, et ça peut se résumer tout simplement comme ça?
Non. Je sais qu'il y a des courriers. Décidément, j'ai pas de. Même des courriers, comment vous dire?
Importants.
Importants, c'est-à-dire que.
Recommandés.
Des recommandés, voilà, exactement.
Vous ne les ouvrez pas?
Non.
Eh ben voilà. Et alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que ces recommandés s'entassent?
Ils s'entassent. Je ne me déplace pas jusqu'à la poste pour les prendre.
Et ils ne vous inquiètent pas plus que ça, en fait? Parce que là, on est dans... Je vais me retourner vers Diane Ballona-Roland. Avec Françoise, là, à quelle étape sommes-nous?
Alors... Là, on est. C'est un peu différent de l'étape, effectivement. Là, je crois qu'il y a. Vous évoquiez un peu la charge mentale. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu de ça aussi. C'est-à-dire que Françoise le disait, elle était auparavant, quand elle travaillait, dans un cadre hein, très structuré.
Elle était très carré.
Où
très
tout
carré.
Était très carré et que inconsciemment, à un moment donné, il y a aussi, ça rejoint un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, ce rejet des contraintes. Progressivement, en basculant dans cette absence de cadre, il y a aussi une façon de
une même sorte de lâcher prise,
hein, finalement, de relâcher la pression. Ouais. La pression a été très forte toutes ces années, même si elle s'en rendait pas forcément compte, et que à un moment donné, on n'a plus envie. On n'a plus envie d'être là-dedans. On n'a plus envie de faire des efforts. Alors,
est-ce à dire, pardonnez-moi de vous interrompre, mais est-ce à dire que la procrastination gâte aussi tous ces gens qui ont une vie bien remplie, un métier qui les passionnait ou rien de dépassé, comme Françoise, et que cela les gâte à la retraite?
Ah, mais complètement, et pas que. Hein. C'est-à-dire que ça peut, quand je dis qu'on est tous un peu procrastinateurs, ça peut vraiment toucher tout le monde, à toutes les étapes, et contrairement aux idées reçues, vous avez dans les profils de procrastinateurs des personnes qui sont aussi très bien organisées. Mmh. Donc il y a beaucoup de préjugés aussi autour de la procrastination. On imagine souvent la personne qui est un petit peu paresseuse, etc., alors que pas du tout. Et qu'on peut procrastiner pour tout un tas de raisons très différentes, qui parfois nécessitent d'être creusées, j'irais peut-être d'un point de vue aussi plus psychologique aussi, hein. C'est-à-dire que c'est difficile là de dresser une analyse de la de la situation de Françoise. Parfois, ça peut être le symptôme aussi de maladie. Ça peut être par exemple le symptôme d'une dépression. Donc encore faut-il effectivement identifier cette dépression. Ouais, voilà, il peut y avoir plein de raisons.
En tout cas, on peut le voir dans le cas de Françoise. On sent un cadre professionnel, quelque chose de bien rempli, de bien cadré. Et puis tout à coup, Françoise qui se retrouve avec son chat, avec ses recommandés qui arrivent. En tout cas, vous parliez de succès qui pouvait déclencher de la procrastination tout à l'heure, aussi bien que de défaites, hein, de choses négatives. Ça fera l'objet d'une autre émission. En tout cas, merci beaucoup Françoise pour votre témoignage. Ne laissez pas quand même un conseil trop s'entasser, c'est recommandé. Et merci pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci aussi aux deux Cléments, hein, d'avoir participé, l'un au début d'émission et puis l'autre du haut de ses 22 ans, pour nous faire part de son travail en groupe, de sa motivation, et puis à Morgane d'avoir partagé avec nous aussi comment de cette procrastination était née une envie de la créativité. Et puis bien évidemment, merci beaucoup à vous, Diane Ballona-Roland. Je rappelle que vous êtes l'auteur de J'arrête de procrastiner 21 jours pour arrêter de tout remettre au lendemain. Alors la procrastination, on l'a vu, qu'elle soit passagère ou durable, est une tendance qui touche beaucoup de monde. Elle peut occasionner stress et culpabilité, mais ce n'est pas une fatalité. Il est important de définir ses priorités, de planifier ses actions pour ne plus remettre certaines tâches à plus tard. On peut continuer à parler de cette procrastination sur les réseaux sociaux.
Oui, vous avez réagi. Continuez sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1 et puis sur Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble de la cyberhaine, la haine sur Internet. Comment protéger les jeunes des messages ou commentaires racistes, antisémites, sexistes ou homophobes? Si vous avez été victime ou témoin de cyberhaine, si vous avez déjà envoyé des messages haineux sur Internet, mais que vous vous repentez et que vous êtes aujourd'hui repenti. Si vos enfants ou votre enfant sont victimes de cyberhaine, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire et nous ferons un plaisir de parler avec vous. Ma chère Ombline, j'étais ravie de passer cette heure avec vous.
Moi aussi, également.
Et voici l'heure maintenant de retrouver Carl Zéro et ses tontons flingueurs à partir de 16h. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis dès demain en direct 15h. Bonne journée, salut.